Bonjour, vous êtes bien avec sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de mai. Et je commence par vous dire que lire, c'est vivre, et que c'est aussi une grande aventure. Justement, en allant de livre en livre, on voyage au-delà des frontières, et même que le temps semble se figer dans une histoire racontée par un grand écrivain, comme si le temps était retrouvé. Voilà. Comme promis, je vous reparle de ce poète français, Jacques Gilles, qui nous emmène avec joie au cœur de sa garrigue natale, dans le sud de la France. Pour lui, c'est un lieu de ressourcement, de méditation profonde et parfois de questionnement. Le titre de ce recueil de poèmes, c'est « Le matin était parti d'un cri radieux », édité par les éditions des Deux Rues. Pour vous retrouver sur ce site, https les deux barres et puis www.editions2, c'est le chiffre 2, rue et puis .com. Voilà. En vous reportant sur ce site, ben vous trouverez toutes les questions que vous posez à propos de cette sympathique maison d'édition des Deux Rues. Ce recueil de poèmes commence par un poème de Liliane Wouters, et je le lis car il est si beau. Écoutez ce petit poème de Liliane Wouters. Rétablissons les êtres et les choses dans leur candeur natale. Je propose que nous marchions ensemble sur les eaux, que nous ayons l'audace des oiseaux, que notre souffle, en épousant la terre, allume un feu nouveau dans nos artères. N'est-ce pas que c'est très beau? Alors, comme je l'ai dit, je vais vous lire donc des poèmes tirés de ce recueil « Le matin était parti d'un cri radieux » de Jacques Gilles, aux éditions des Deux Rues. Il parle d'un arbre. À l'arbre, quel qu'il soit, est le premier à avoir interrogé l'espace. Il est cette arborescence qui précède l'homme dans le questionnement. Sa grandeur lui vient de sa profondeur. Peu lui importe les réponses, puisqu'il n'y a point de réponse. Unique affirmation qui n'attente pas à l'infinitude. Ah, ces murmures au plus haut des frondaisons, comme une leçon de choses. Un vent d'humilité nous renvoyant à nos chères études où, pour bien longtemps encore, seule notre histoire tiendra lieu de savoir. Tout comme autour de l'arbre, le ciel, le soleil, les étoiles, et chaque jour il agrandit son cercle, s'approprie le monde, l'univers. Devenu l'œil du tournoiement, il ouvre des chemins nouveaux dans l'obscure lumière de la terre, gagnant ainsi en profondeur. Or, pendant que sa marche immobile nourrit ses racines, que son arborescence s'abreuve à l'azur, des hommes viennent cogiter sous son ombre, en font le tour, mesurent ce qu'ils pourraient s'octroyer encore d'espace et de clarté, et, affûtant leurs haches, ils songent déjà aux flammes vives des soirs d'hiver, celles qui réchauffent le corps, donnant joie à l'âme, mais qui creusent quelque part un vide, saupoudre de cendres le trou béant de l'absence. N'est-ce pas que c'est beau? Quoi qu'on l'on fasse, on chemine, et nous on chemine d'un poème à l'autre. Il y a toujours une part de nous-mêmes sur une route où ne vont jamais nos actes. Et là, sur cette draille où se prend l'éternité en marche, où tout est à rejoindre, quelque chose, un peu de soi, se voue à l'indicible, se donne à l'impalpable. Quelque chose qui effleure les pierres, s'élève au-dessus des garrigues et qui est du soleil dans la lumière, du soleil prêt à générer l'espérance d'un autre possible. C'est vrai que ça me plaît bien, cette poésie. Va, cours, et dis, le soleil te regarde. Il y a plus de ciel dans ton cœur que ne peut en contenir l'infini. Sois fidèle à toi-même, même si en cet amour éperdu, l'humanité ne s'attarde. Qu'importe l'éclat que tu adoptes, si ta flamme ouvre une verticalité, si tes mots génèrent une émotion, les pierres déjà t'écoutent, les arbres t'entendent. Certes, cette victoire est celle de l'ineffable. On appartient à l'âme et c'est à toi aujourd'hui qu'on la demande. Rien n'y est palpable et elle n'impose rien à l'homme. Elle est la part belle qui te grandira là où, hier encore, tu déclarais ton absence, revanche de l'esprit. J'arrêtais là quelques lectures de ces poèmes tirés du recueil de Jackie Gilles, Le matin était parti d'un cri radieux pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Aux éditions des Deux Rues. Et puis, la dernière fois, j'avais évoqué, mais très peu, un livre qui me tient à cœur. Voilà. Il s'agit de Hamnet, de Magie O'Farrell, aux éditions Bellefond. Un jour d'été 1596, donc là on remonte dans le temps, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, qui s'appelle Hamnet, d'où le nom de ce roman, part chercher de l'aide, car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales, car à cette époque on se soigne avec des plantes médicinales, dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail, qui semble bien mystérieux, aux yeux de tous dans cette petite cité, non loin d'une grande forêt qui s'appelle Stratford. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Et ben il va chercher même un médecin, mais qui n'est pas disponible. Donc le temps passe, il ne sait pas comment faire. Et afin que sa sœur Judith survive, Hamnet va fusionner et prendre sa place en contactant cette maladie infectieuse, la peste, et va entrer dans la mort à la place de sa sœur. Porté par une écriture d'une beauté inouïe, ce nouveau roman de Maggie O'Farrell est la bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible. C'est aussi l'histoire d'un couple atypique, Agnès, la jeune femme, la mère, belle cavalière, tenant dans sa main ou dans son poing une aisselle, un épervier qui chasse. Lui est un jeune homme plutôt vague, très épris d'elle. Ils vont se marier contre l'avis de la belle famille, qui était une famille dans le temps bien établie. Mais le temps a changé et le père n'a plus cette superbe qu'il avait dans le temps. Ils auront une fille et puis donc les deux jumeaux. Cette romancière, Maggie O'Farrell, est née en Irlande du Nord. Elle dresse ici vraiment, je trouve, un très beau roman historique, avec la vie quotidienne de cette époque. La façon de se nourrir, de se soigner, de la campagne, la forêt pas très loin, la chasse, la pêche, le jardinage. Et puis il y a le deuil, qui va s'emparer de Agnès et du jeune homme son père, qui en fait mène à Londres une vie toute monacale, consacré au théâtre. Oui, ça fait déjà un petit moment qu'il a été acteur, formé comme un acteur. Il a même... donc, il va créer des pièces de théâtre qui vont avoir de plus en plus une renommée, même auprès de la reine Élisabeth Ière. C'est l'époque de Élisabeth Ière. Et on découvre cela dans toute la dernière partie de ce livre, qui est ménagé un petit peu en suspense. On découvre donc sous les yeux d'Agnès qu'ils sont devenus riches, donc ils vont pouvoir s'approprier une maison avec un jardin, et qu'il s'appelle William Shakespeare, qu'il n'a pas oublié son petit garçon Hamnet, comme Agnès aurait pu le penser. Désespérée, elle avait l'impression que son mari s'en allait comme ça. Au contraire, il va le faire revivre sous le nom de Hamlet, l'une de ses plus célèbres pièces de théâtre qui ont fait toute sa renommée. Accueilli par une presse excellente et à juste titre, cher lecteur, vous lirez ce grand roman avec pleine satisfaction. J'ai voulu m'assurer de la qualité de cette fiction inspirée de la courte vie de Hamnet, car dans les biographies, on parle de cette courte vie de Hamnet, mais pas plus. En me plongeant dans une biographie imagée sur le théâtre élisabétain, et puis sur cet acteur ce grand compositeur de théâtre, William Shakespeare. Alors si les acteurs, j'ai vu que si les acteurs étaient applaudis, ils sont quand même considérés comme des saltimbanques. Voilà pourquoi l'auteur Maggie O'Farrell ménage la publicité autour du travail de ce jeune homme à peine désigné. Mais on sent bien qu'il n'est pas à l'aise dans cette campagne. Agnès s'appelait en fait Anne Hathaway. Voilà. Et le mystère entourant la vie discrète et son talent éblouissant et incontesté de William Shakespeare reste entier dans ce beau roman. Un nom qui ne peut échoir qu'à un militaire, qui maniait la lance avec dextérité. Donc ce nom de Shakespeare est un nom belliqueux, mais qui est devenu un grand talent. Voilà, puisque le théâtre de William Shakespeare est apprécié encore aujourd'hui sur nos scènes de théâtre. Voilà ce que je voulais ajouter à la crédibilité du roman de magie O'Farrell. Et je passe à un troisième livre, un roman, une découverte, intitulé « La fragilité des funambules ». C'est un beau titre, vous allez voir, cette fragilité des funambules. C'est de Verena Hanf, aux éditions Deville, qui est un éditeur belge. On a l'impression, dans ce roman, d'être les spectateurs, donc un bel enchaînement avec le théâtre de Shakespeare, d'être les spectateurs, mais d'une comédie de boulevard dans laquelle les nombreux personnages entrent en scène avec leurs préoccupations et leur langage propre. Même si l'histoire semble simple au départ, Adriana, la jeune femme principale de cette histoire, Adriana, est une jeune femme roumaine. Elle vit depuis quelques années en Belgique, à Bruxelles, où se déroule cette histoire. Après avoir échappé à un viol collectif et à la prostitution forcée, influencée par une femme qu'elle appelle « sorcière », et elle en lui en veut à mort à cette sorcière, eh bien, malgré son désir de vengeance, elle a trouvé un équilibre entre son travail de nounou dans une famille bourgeoise et discordante d'expatriés allemands et son petit ami Gaston. Gaston est un beau personnage parce que c'est un homme bon, stable et aimant. Dans cette galerie de portraits, il dénote un petit peu. Mais il va faire que cette histoire aura quand même une belle conclusion. Cette stabilité, cet équilibre, qui concerne presque tous les personnages divers de cette comédie, d'où le titre « La fragilité des funambules », ce que nous sommes tous peut-être, nous marchons sur un fil tendu avec nos fragilités, eh bien Adriana doit prendre en charge à Bruxelles son fils Cosmin, qui s'appelle Cosmin, âgé de 11 ans, qui vivait en Roumanie avec ses grands-parents qu'il adore. Mais Dorina, la grand-mère, est tombée. Elle a la jambe dans le plâtre et doit rester allongée, soit au lit, soit sur un canapé. Elle ne peut donc pas s'occuper de Cosmin, comme elle le faisait avec une infinie tendresse. Il y a bien le grand-père, mais il ne peut pas tout faire, le grand-père tout seul. Si Cosmin se réjouit du voyage en avion de Bucarest à la Belgique, il déchante, car son séjour là-bas, ici, en Belgique, à Bruxelles, ne se déroulera pas comme il l'avait espéré. Il découvre un monde plein de froideur, tout le contraire de ce qu'il vivait en Roumanie. Même du côté de Adriana, sa mère qui semble très débordée. Et puis avec allumée par cette révolte, cette idée de vengeance. Heureusement, il y aura Gaston, avec qui il peut jouer au foot, voilà, avec les Diables Rouges. Verena Hanf, cet auteur, cette femme écrivain, est née en 1971 à Freiburg, en Brisgau. Et elle vit actuellement à Bruxelles et elle s'y sent très très bien. Elle a reçu de nombreux prix littéraires car elle a déjà écrit d'autres romans, un peu dans le style de René Fallet. Voilà. Avec ce beau roman, très attachant, elle fait son entrée dans notre pays, enfin à Paris, et dans notre belle région de France. Voilà, je voulais vous parler de ce roman qui s'intitule « La fragilité des funambules » de Verena Hanf, qui est paru aux éditions Deville, qui se trouve à Bruxelles. Voilà, une belle entrée, une entrée fracassante de ce roman et de cet auteur ici chez nous, Verena Hanf. Alors, on va pouvoir écouter de la musique, un peu de musique, pour changer. J'ai choisi Beethoven, vous allez comprendre pourquoi, avec ce triple concerto que je connais depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup, le largo de ce triple concerto. Là, il est interprété par la grande, parce que pour moi c'est une grande violoncelliste, Anne Gastinel. dans cette belle musique, Anne Gastinel était accompagnée par Nicolas Angelic au piano, Gilles Shaham et Andreas Ottensamer. Voilà. C'était vraiment un très bel ensemble, un très beau dialogue, un très bel équilibre. Et c'est le Frankfurt Radio Symphonie, dirigé par Paavo Järvi, qui nous offre cette pépite. Alors, si je vous ai parlé de Beethoven, c'est que vient de paraître un nouveau livre, qui est le quatrième que je présente et qui retrace la vie de Ludwig van Beethoven. C'est van, c'est pas von Beethoven, c'est van Beethoven parce que il est d'origine flamande. On parle dans ses ancêtres pratiquaient déjà la musique et le vin. Il y avait déjà la musique et puis le vin. Il faisait production de l'un et de l'autre. Et c'est rédigé par Eric Orsena, voilà, de l'Académie française, que vous connaissez sans aucun doute. Il est accompagné de deux grands musiciens. Au piano, c'est Michel D'Alberto. Je pense que vous le connaissez aussi un petit peu. Et puis au violoncelle, c'est Henri de Marquette, voilà, qui à 13 ans avait déjà fait remporter déjà des premiers concours. Alors, pour ses recherches biographiques et musicales, Eric Orsena s'est plongé dans l'immense biographie de Brigitte et Jean Massin, éditée par Fayard. Et s'ils sont des savants, ces deux-là, qui s'entendent vraiment très très bien, il dit que « je ne suis qu'un promeneur », dit-il. Voilà, Eric Orsena est un promeneur et c'est son style. Et ce qui fait qu'il nous donne envie de le lire, de connaître mieux Beethoven et aussi de découvrir, moi j'ai eu envie en le lisant, de relire Romain Rolland, qui a été prix Nobel de littérature en 1915, alors qu'il résidait à Genève. Il était trop âgé pour partir à la guerre, donc il avait décidé de se retirer sagement à Genève. Et c'est là qu'il va recevoir le prix Nobel de littérature. Mais il avait consacré son grand roman, c'est Christophe, qui déplaisait quelque peu parce que Christophe, c'est un musicien, voilà, proche, semble-t-il, de Beethoven ou de Bach, et qui était allemand, et ami avec un Olivier qui, lui, est français. Alors, bien sûr, vous pensez que allier comme ça l'Allemagne et la France, ça pouvait porter à discussion venimeuse. Mais ce Romain Rolland avait aussi consacré plusieurs livres sur Beethoven, qui est son grand, grand musicien, qu'il aimait profondément, et avec cette idée de fraternité, qui a été reprise par Eric Orsena, d'où le titre du nouveau livre de Eric Orsena, « La passion de la fraternité, Beethoven », qui vient de paraître donc chez Stock. Stock Fayard, mais c'est Stock qui nous l'a fait parvenir. En ces temps déchirés, quel trésor pourrait mieux nous réparer que celui de la fraternité? Voici commencé dans ce 18e siècle qui croit possible la lumière, la paix et le bonheur. Beethoven, je le rappelle, est né à Bonn en 1770, ce qui fait donc 250 ans. Et voici donc l'histoire de Ludwig van Beethoven. L'histoire d'un génie passionné de fraternité alors que tout se ligue contre lui. Sa famille, sa santé, ses amours. Il en a eu, mais il n'a pas su les garder parce qu'en fait, il devait tout se garder pour son œuvre, à construire, à bâtir. ses finances aussi. Il y a des moments, ça n'allait pas bien du tout. Et puis la si méprisante noblesse de Vienne. Même s'il a été enterré en grande pompe, il n'empêche que la noblesse de Vienne a été vraiment très méprisante. À tous les coups qui le frappent, Beethoven réplique par un chef-d'œuvre. Et il en a créé vraiment beaucoup. Jusqu'au final de sa neuvième symphonie, avec ce poème de Schiller, qui ne l'a jamais quitté depuis sa jeunesse, et qui deviendra, comme vous le savez, l'hymne de l'Europe unie. Voilà ce que dit ce poème, hymne, enfin, pas tout, parce que je ne peux pas vous lire tout le poème, même s'il est, il figure bien dans ce livre, en allemand, et puis traduit, voilà. Donc vous pourrez le découvrir dans le livre « La passion de la fraternité », Beethoven par Eric Orsena, chez Stock. Donc « Joie », le thème. Tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. Voilà, c'est la joie. Mais si c'était le contraire, si c'était la fraternité qui donne la joie. Voilà, à découvrir donc ce livre qui se lit vraiment d'une manière passionnante, je dirais. La passion de la fraternité de Eric Orsena. C'est bien ce que l'on remarque aujourd'hui, que c'est bien la fraternité qui s'exprime, même avec le confinement qui nous lie souvent. Dès que des gestes de fraternité sont exprimés, eh bien on voit que la joie est entre nous. Voilà. Donc voici pour ce sixième roman que je voulais vous présenter. La passion de la fraternité, Beethoven, de Eric Orsena. Et puis j'aborde maintenant un grand roman, un cinquième livre, un roman subtil et puissant qui laisse son sillage inoubliable aux lecteurs de tous bords. Un grand roman qui aborde, vu de l'intérieur, le génocide arménien. Même si d'entrée, il nous plonge dans les parfums, d'où le titre « Le parfum de l'exil ». C'est de Ondine Kaya, édité par Charleston, un éditeur impertinent parce qu'il fait des très bonnes choses. Ondine Kaya, je l'avais remarqué déjà et je voulais lire ce livre-là et en fait, il est quand même arrivé chez moi. C'est une Française aux origines arméniennes et libanaises. Et ce roman lui tient particulièrement à cœur. À nous aussi. Là où s'épanouit le jasmin, se trouve la première clé. Tel est le dernier message laissé à Tallinn, le personnage principal, en quête de son identité, par Nora, qui est sa grand-mère, qui l'a élevée, guidée, accompagnée à chaque étape de sa vie. Celle qui lui a appris à reconnaître tout un univers subtil d'odeurs, chèvrefeuille, amandes, terre mouillée, et à les associer pour créer de nouvelles fragrances. Et elle a vraiment cette Tallinn, elle a vraiment un nez, cette Tallinn, elle a vraiment un nez qui va lui permettre de créer et de participer à la création de ces nouvelles fragrances avec sa grand-mère. Mais maintenant que Nora est morte, eh bien Tallinn est terrassée par le chagrin, se sent complètement perdue. Elle était tellement proche de sa grand-mère, de Nora. Elle doute d'elle-même, se sent vulnérable, alors qu'elle doit être forte pour prendre la tête seule de l'entreprise de parfums créée par sa grand-mère à Paris et à Bandol, où se trouve la propriété et l'atelier. Sous le massif de jasmin du jardin, elle découvre un carnet en cuir, rédigé par Louise Kéroubian, son arrière-grand-mère, donc la mère de sa grand-mère, qui était déjà toute jeune, 9 ans, 9-10 ans, déjà une poétesse, une grande poétesse, on peut dire. C'était sa façon d'être que d'écrire des poèmes, formée par son propre grand-père, un grand personnage lui aussi. Malheureusement, au fil des pages, Taline défile sous ses yeux tout un pan de son histoire familiale, avec le génocide arménien qui avait été vraiment terrible. Et ici, donc, on le voit de l'intérieur, puisque Louise, son arrière-grand-mère, eh bien, va devoir tout quitter, partir, et puis elle va assister, elle va savoir comprendre que son grand-père, qu'elle adorait, a été décapité, qu'il faut partir, la peur au ventre, elle est avec sa petite sœur, dont elle est la gardienne, qu'elle doit entraîner avec elle, c'est l'horreur, l'anéantissement même, parce qu'elle sera violée, elle, à plusieurs reprises, mais elle avait sa sœur à protéger, ce qu'elle fera en tuant quelqu'un qui s'apprêtait à malmener sa sœur. Mais cette action lui permettra de ne pas sombrer complètement, mais aussi, avec ce beau roman, l'espoir, il y a comme un espoir. Moi, je dirais plus que, parce que cette Louise se révolte contre Dieu, alors que c'est plutôt contre les Turcs, les hommes, ce sont eux qui ont fait organiser ce génocide avec 1,5 million morts. Et donc, un semblant, il y a dans ce roman un espoir, une lueur qui se lève, et un semblant de renaissance, voilà, qui fait que c'est un très très beau roman. En levant le voile sur les secrets et les traumatismes du passé, Taline souhaite se libérer enfin des cauchemars qui la hantent et qui se sont transmis de génération de femmes en génération de femmes. Avec aussi une certaine malédiction, on pourrait dire, parce que il y a 3 carnets en fait, après un premier, après le deuxième, après le troisième, elle découvre que les femmes qui ont eu un enfant, parce que cette Louise sera mariée quand même, elle aura un enfant, mais elle ne va pas savoir l'aimer, parce que c'est trop tôt. Elle s'est mariée parce que ça se présentait quand même bien pour elle, c'était un avenir pour elle, dans son désarroi. Mais c'est vrai que... Et puis sa sœur, sa petite sœur, va rentrer dans un couvent, parce qu'elle est très attirée par la foi, par la religion chrétienne, par Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, qu'elle veut imiter à sa manière, qu'elle découvre et qu'elle veut imiter à sa manière. Donc, c'est vrai que c'est un vraiment très beau... Il y a une espérance là, même si pour Louise, ce n'est pas de l'espérance, parce qu'elle se révolte contre Dieu. Mais il n'empêche que la Providence est là parce que c'est dans une église qu'elle va trouver une famille qui va l'accueillir, que de là, après, elle pourra découvrir quelqu'un d'autre qui va l'aimer et vouloir se marier avec elle. Donc, elle aura un enfant. Mais cet enfant, donc, elle ne va pas réussir à l'aimer. Et cet enfant, ben, c'est la grand-mère de la jeune femme de Taline. Hein. Donc, elle-même aura un enfant, se mariera, elle va grandir aussi, tout ça. Elle va souffrir du fait que sa mère ne l'aime pas, mais elle-même aura un enfant qui est la mère de Taline, mais elle ne saura pas l'aimer comme elle aurait dû l'aimer. Vous voyez, on trouve ça, c'est ce malheur un petit peu d'une génération à l'autre, de ces femmes qui enfantent et qui devraient être très heureuses, mais en fait, je ne sais pas, c'est trop tôt, ou elles ont des blessures qui font qu'elles n'aiment pas comme elles devraient aimer leur enfant. Donc, c'est un roman puissant, empli de poésie, inspiré de l'histoire familiale de l'auteur, voilà, qui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais connaît bien le Liban, l'Arménie et le Liban, voilà, où se passe en grande partie ce roman. Alors pour conclure ce grand livre, Le parfum de l'exil de Ondine Kaya, je voulais vous lire une lettre que justement laissée en héritage de la grand-mère Nona, qui écrit à sa petite fille, à Taline. Voilà ce qu'elle lui dit à ce moment-là. Alors qu'elle ne sait pas, vraiment, elle n'a pas su aimer sa propre fille, mais sa petite fille, elle l'adore. « Tu es le plus grand bonheur de ma vie, » dit-elle dans cette lettre. « Quand tu es née, je suis allée te voir à la maternité et je t'ai aimée dès l'instant où mes yeux se sont posés sur toi. Tu t'es ce que la vie peut offrir de plus merveilleux. Un magnifique bébé, joyeux, souriant, une petite fille de lumière. Je ne devrais peut-être pas te le dire, mais c'est en te voyant que je suis devenue mère pour la première fois. » Vous voyez, on saute d'une génération à l'autre. Il y a dans chaque famille de lourds secrets, des loyautés invisibles, des fardeaux qui se transmettent de génération en génération. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Chaque peuple porte en lui ses tragédies et ses espoirs. Nous formons une seule et même chaîne humaine. Chacun de nous est appelé inlassablement à comprendre, apprendre, réparer. Je formule le vœu qu'au travers de ce que tu découvriras, tu puisses enfin vivre ta propre vie et être heureuse. Tu le mérites, ma petite fille chérie, même si jusqu'à présent ta trop grande sensibilité t'en a en partie empêchée. Je sais qu'elle est un joyau lorsque tu crées des parfums, mais se révèle souvent douloureuse dans la vie quotidienne. Puisse ce que tu découvriras répondre à tes interrogations et t'apporter l'apaisement qui t'est si nécessaire. J'espère aussi que tu me pardonneras, parce que il y a beaucoup de choses que sa grand-mère, que Nona, ne lui a jamais dites. Je t'aime, mon enfant chéri. N'oublie pas que je suis vivante. C'est signé Nona. tu peux maintenant ouvrir la deuxième enveloppe qui va la diriger vers un deuxième carnet, puis il y aura un troisième carnet pour raconter toute cette épopée de cette vie familiale que vous trouverez dans Le Parfum de l'Exil, un grand roman vraiment subtil et puissant qui laisse dans nos cœurs un sillage inoubliable. Voilà, publié par Charlton Heston. Il me reste quelques minutes. Eh bien, j'avais prévu aussi de vous parler d'un autre livre, grand livre aussi, qui fait de nombreuses pages, qui s'intitule « Le berceau du monde ». C'est de Catherine Scholl, aux éditions Belfond, qui pour moi vraiment est un éditeur que j'apprécie pleinement. Cette Catherine Scholl est née en Afrique en 1959, dans une mission en Tanzanie où elle a passé une partie de son enfance. Et elle vit à présent en Tasmanie, qui n'est pas du tout, si la Tanzanie est en Afrique du Sud, la Tasmanie est une petite île qui se trouve au sud de l'Australie. Je le précise parce que les Français et la géographie ne sont pas toujours d'accord. Elle est réalisatrice et auteure de poésie, de fiction, voilà. Elle avait fait un livre que je n'ai pas lu, mais que je vais lire bientôt, « La Reine des pluies », qui a été réédité en 2019. Dans ce nouveau livre, « Le berceau du monde », qui vient de paraître chez Belfond, dans ce nouveau livre, dans les années 1900, elle se replonge dans les années 1970 avec son personnage principal qui est la jeune femme de 38, une jeune femme de 38 ans. Essie, c'est Esther, mais le diminutif c'est Essie. Et je pense que ça lui convient mieux, ce diminutif d'Essie. Essie Laurence, elle vit avec son mari, Yann, qui est anglais. Ils viennent d'Angleterre. Ils étaient... C'est dans un roman qui est dans la lignée, je le dis maintenant, de Doris Lessing et de Karen Blixen, voilà, pour aborder la féminité et la maternité dans la Tanzanie des années 1970, à la culture complexe et à l'infinie beauté. La culture est complexe, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y avait plusieurs tribus africaines qui vivaient là, pas toujours en bonne intelligence. Donc Essie a quitté l'Angleterre pour suivre son mari, Yann Laurence, éminent archéologue, dans un campement au cœur de la brousse tanzanienne. Là, sur les bords du lac Natron, les Laurence recherchent depuis des générations les traces d'une civilisation primaire. La grande question que l'on se pose, que les scientifiques se posent, c'est à savoir où se trouve l'origine de l'homme, Erectus. Où ça se trouve? Alors beaucoup pensent que c'est en Asie, mais eux, je ne sais pas, une intuition fait qu'ils pensent que c'est en Afrique plutôt. Et ce livre va nous mener sur ces traces du premier homme en Afrique, c'est bien en Afrique. Un jour, à la suite d'une rencontre avec le chef de la discrète tribu nomade des Hadzas, alors c'est vraiment une tribu très très ancienne qui remonte un peu dans la nuit des temps. Ils sont cueilleurs, nomades, ils n'ont pas vraiment d'habitation, ils se déplacent beaucoup, c'est Hadza. Et donc, un personnage, un grand-père, enfin, qui semble être un peu le chef aussi de cette tribu, il s'approche de Essi et il confie à la chercheuse un enfant, une étonnante mission. Un enfant, une orpheline, âgée de quelques semaines. Pendant les trois, de la garder, de s'en occuper, de la nourrir pendant les trois mois de la saison sèche. Alors, Essi n'ose pas trop refuser cette proposition édifiante et inconnue, étonnante. Rentrée au camp, Essi s'affole, elle qui n'a jamais voulu être mère, pourrait-elle subvenir aux besoins du nourrisson, sans parler des conséquences de l'arrivée de cette petite fille qu'ils vont appeler Mara, sur son couple, le couple qu'elle forme avec Yann Laurence, qui lui aussi ne veut pas avoir d'enfant. Sur sa carrière, sur ses liens avec les autres Tanzaniens, parce que, je vous l'ai dit, il y a un peu des querelles de clans d'une tribu à l'autre, qui semblent mal accepter la présence d'une petite Asda à leur côté. Trois mois, rien à l'échelle d'une vie, d'une civilisation, mais bien assez le temps pour bousculer le monde d'ici et la forcer à questionner son rapport à l'amour, à la vie. Qu'adviendra-t-il ? C'est la question qu'elle se pose, mais que l'on se pose aussi, nous aussi, en lisant ce beau roman. Qu'adviendra-t-il de la jeune femme et de la fillette lorsque reviendront les pluies ? Lorsque elle devra, parce que, effectivement, elle va s'attacher beaucoup, s'inquiéter beaucoup à cette petite Mara. C'est vraiment un roman beau, subtil, une quête haletante, parce qu'elle va aussi faire des recherches archéologiques. Et à côté de la caverne qu'elle avait décrite, qu'elle avait trouvée, où elle avait repeint les peintures murales, les dessins muraux qui se trouvaient, elle va, à force d'opiniâtreté, près du volcan, dont je ne dis pas le nom, mais il y a un volcan avec de la lave blanche, on donne l'impression qu'il y a de la neige sur le dôme, le sommet du volcan, eh bien, il y a un lac au bas, voilà, où on peut se baigner, où elle va se baigner. Eh bien, il y a une caverne. Ils vont, mais il y avait des gros rochers, des choses qui obstruaient cette caverne. Et grâce aux chiens, eh bien, ils vont pouvoir pénétrer dans cette caverne, trouver une entrée. Et pénétrer dans cette caverne, il y a même un tunnel et deux cavernes, et là ils vont trouver bien un squelette, je ne dis pas tout ce qu'ils vont trouver, parce qu'il y a aussi eu un drame dans la vie d'une autre personne, de sa belle-mère, que je ne décris pas. Mais vraiment, c'est vraiment très très beau comme roman. Et donc, effectivement, ce sera très très douloureux pour elle, après trois mois de cette saison sèche, lorsque la pluie reviendra et que la tribu reviendra aussi avec deux personnes pour réclamer la petite fille, la petite Mara. Ce sera pour elle, bien sûr, un déchirement, parce que c'était pas rendu compte à quel point cette vie, cet enfant va la contaminer, va vraiment une enfance. Donc c'est une enfance en Afrique, une passion pour ce continent et une documentation très fouillée. Voici à partir de quels matériaux Catherine Scholl construit ses histoires. Mais ce qui nous emporte dans ce roman, le berceau du monde, c'est que la romancière fait de ses atouts une saga flamboyante et romanesque à souhait. Oui, vraiment, je parlais au début de l'aventure que lire, c'était une belle aventure, et bien c'est un voyage éblouissant pour le lecteur, voilà, que de lire tous ces différents livres que je vous ai présentés, que ce soit La Passion de la Fraternité de Eric Orsena, La Fragilité des Funambules de Verena Hanf, Hamnet aussi de Maggie O'Farrell chez Belfond, cette grande romancière irlandaise qui se penche sur ce petit garçon qui est mort trop tôt à la place de sa sœur Judith. Les poèmes de Jackie Gill, Le matin était parti d'un cri radieux, édité par Les Deux Rues. Et puis, je vous ai dit aussi de grand bien de Le parfum de l'exil de Ondine Kaya, qui connaît vraiment très très bien aussi, qui est française, mais qui aux origines arméniennes et libanaises, et donc qui fait un très très grand roman avec. Le parfum de l'exil, édité par Charleston. Un roman puissant, subtil et puissant. Et puis donc, Le berceau du monde, de Catherine Scholl, à lire vrai absolument chez Belfond. Un gros roman qui fait bon nombre de pages. De tous ces romans que je vous présente sont vraiment des grands romans. Et donc, ils vous font voyager de la Tasmanie à la Tanzanie. Un voyage éblouissant pour le lecteur, savamment envoûté par la talentueuse créatrice de La Reine des Pluies, que je n'ai pas lu, ou que je lirai pour la prochaine fois. Et là, je pourrais vous en parler aussi. De cette reine des pluies. Que je vous dise peut-être non. Je crois vous avoir tout dit, enfin, pas tout dit, mais dit l'essentiel de ce berceau du monde de Catherine Scholl aux éditions Belfond. Et je vous rends à vos lectures. Voilà, je vous dis au mois prochain. Voilà, à bientôt.